au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Lauréat de l'appel à projet Autisme et Nouvelles Technologies 2016 de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, en partenariat avec la Fondation Orange et la Fondation UEFA pour l'Enfance, le projet IGOLIA vise à mettre à disposition des professionnels de santé, des familles et des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, une plateforme de jeux numériques qui permet de s'entraîner pour améliorer l'attention conjointe et l'imitation. Alors si j'ai d'abord pensé que Golia, G-O-L-I-A-H, était une référence au célèbre bateau remorqueur à vapeur du même nom, ou à l'espèce aujourd'hui disparue de kangourou géant, j'ai vite réalisé que Golia était en fait l'acronyme de Gaming Open Library Intervention for Autism at Home. Malgré mon accent, vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de jeux numériques pour les enfants autistes. Bonjour à tous et bienvenue dans Au plus près de la recherche. Aujourd'hui, deux invités, deux hommes à notre plateau. Pierre Foulon, vous êtes directeur du numérique, de la santé et du recherche et développement du groupe Genius. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et le docteur Jean-Xavier, vous êtes pédopsychiatre, spécialiste des troubles complexes du développement chez l'enfant et l'ado au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux. Alors, un chercheur, un développeur, on va voir pourquoi vous êtes tous les deux à Vivre FM aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui s'appelle IGOLIA, alors des jeux numériques pour les enfants autistes, on va dire, on peut peut-être simplifier un petit peu comme ça pour lancer l'émission. Mais pour venir à ce projet IGOLIA, on va peut-être faire un petit retour en arrière, un historique sur le développement d'un démonstrateur fonctionnel. Alors c'est un terme un peu technique, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agissait. C'est Michelangelo, le nom de ce démonstrateur fonctionnel. Et pour là encore simplifier, est-ce qu'on peut dire que c'est un prototype du jeu vidéo numérique dont on va parler aujourd'hui et qui s'appelle IGOLIA? Alors peut-être avec vous, docteur Jean-Xavier, pour démarrer là-dessus.
Bien bonjour. Donc, ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que effectivement le projet Golia évidemment s'inscrit dans le projet européen Michelangelo, qui était un projet qui était plus global, qui était bien sûr qui était centré sur les aspects d'imitation et d'attention conjointe, mais qui était un projet qui dont l'objectif a été de développer des méthodes d'intervention pour évaluer et traiter les enfants avec autisme en utilisant des techniques de l'information et de la communication et des techniques d'ingénierie. Et ce projet Michelangelo, il a porté deux volets, un premier sur des études plus de robotique et un second qui justement est ce projet Golia, donc c'est-à-dire cette élaboration d'un serious game, d'un jeu sérieux comme on dit en français, dont on va parler plus précisément aujourd'hui.
Alors justement, parce que vous dites donc qu'on dit en français « jeu sérieux », mais finalement, on ne le dit pas souvent. Moi, ce n'est pas une expression qui me parle. Alors, on va peut-être voir avec le développeur Pierre Foulon, le groupe directeur donc numérique, santé, recherche et développement du groupe Genius. Un « serious game », un jeu sérieux, c'est quoi?
Eh bien, écoutez, c'est créer un environnement ludique avec une finalité pédagogique à la base. Et nous, en 2011, on s'est aperçu qu'avec la même méthodologie, au lieu de traiter des objectifs d'apprentissage ou des objectifs pédagogiques, en formation continue par exemple, on pouvait traiter des objectifs thérapeutiques en travaillant directement avec des professionnels de santé. Et du coup, on s'est aperçu qu'on pouvait arriver à des résultats très concrets sur plusieurs pathologies, qu'elles soient physiques ou cognitives, et puis qu'on pouvait ensuite faire tout le processus de validation clinique. Et donc d'arriver à un concept, si je pouvais résumer, autour du médicament numérique ou du logiciel médicament, voyez. Et donc, notre travail, nous, c'est vraiment de créer plutôt du serious game, je vais parler plutôt de jeux vidéo thérapeutiques, et d'arriver à des bénéfices patients qui sont mesurés et qui sont probants.
Du côté médical, l'idée d'aller chercher dans les nouvelles technologies du numérique des solutions à des problématiques rencontrées dans ce cadre-là par des enfants qui sont atteints par des troubles autistiques, c'était une évidence. Ça a suivi l'évolution des nouvelles technologies, a été suivie de près par le corps médical, parce que vous disiez ça va nous ouvrir en tout cas des possibilités, des opportunités d'améliorer la vie des personnes concernées.
Moi, je crois que déjà que l'évidence, elle est d'abord clinique, c'est-à-dire qu'on a des difficultés. On a des difficultés que nous partageons avec les parents, c'est de pouvoir interagir avec les enfants avec autisme, finalement, hein, et de favoriser cette imitation et cette attention conjointe qui sont vraiment des compétences clés pour pouvoir développer la communication, pour pouvoir développer les apprentissages aussi. Bon. Il y a certaines études, il y a une revue de la littérature de Boussena en 2014 qui indique que chez des adolescents avec autisme, que l'utilisation de l'ordinateur favorisait l'attention, permettait aussi qu'ils puissent développer leur motricité fine, par exemple, qu'ils puissent aussi généraliser certains comportements et qu'ils puissent avoir moins de comportements de type donc finalement autostimulation et autres. Donc on avait cet élément-là. Et puis de manière très empirique, on s'est rendu compte que l'utilisation de tablettes, quand on introduisait les tablettes donc à l'hôpital, et donc je suis responsable d'une unité de jour pour enfants qui présentent un trouble du spectre autistique, eh bien, il y avait un début d'accrochage finalement, un début d'accrochage visuel, si je puis dire, avec la tablette. Donc l'idée a été de pouvoir faire, développer certains jeux donc de manière très empirique, c'est-à-dire utiliser par exemple certaines activités que nous faisions papier-crayon ou avec par exemple des objets, et de se dire finalement, est-ce qu'on peut construire un jeu, est-ce qu'on peut construire des activités, donc centrées sur l'imitation, centrées sur l'attention conjointe, mais est-ce qu'on peut construire quelque chose finalement en partant donc, effectivement de notre expérience et de ce que nous avions observé, hein. Et en lien avec l'Institut des systèmes intelligents de robotique, parce qu'on a un partenariat très étroit avec des ingénieurs, on a commencé à essayer de construire effectivement ces jeux donc progressivement.
Les deux axes dont vous parlez, l'attention conjointe, l'imitation, vous le disiez, c'est en lien avec la communication. C'était vraiment une volonté de démarrer par ça, c'est-à-dire la communication, quels que soient les troubles autistiques, finalement, c'est un premier pas pour peut-être aller vers un meilleur lien avec l'enfant.
Je crois que s'il n'y a pas d'attention conjointe, on peut difficilement, effectivement, c'est effectivement des compétences clés, l'imitation, l'attention conjointe, pour pouvoir finalement commencer à créer une interaction et qu'on puisse progressivement rentrer dans les apprentissages, sinon ce n'est pas possible.
Et alors, tout à l'heure, Pierre, vous nous disiez effectivement sur le groupe Genius, vous travaillez pas seulement sur des jeux vidéo thérapeutiques à destination de personnes avec des troubles autistiques. Il y a, par exemple, des personnes concernées par Alzheimer, par Parkinson. Est-ce que, pour ce qui concerne les personnes qui ont des troubles autistiques, ça va permettre, on va pouvoir trouver, apporter des solutions pour tous les types de troubles, ou est-ce qu'on est quand même limité? Est-ce qu'on s'adresse à un certain public, en tout cas à certaines formes du trouble autistique?
Je crois que ce qui est important, j'allais dire, quel que soit le type de prise en charge des enfants avec autisme, et donc je sors de la question même des tablettes, hein, c'est de pouvoir s'ajuster au niveau de développement, au niveau, je dirais, d'autonomie de l'enfant, et aussi à son niveau de développement. Et quand je dis ça, je fais référence aussi à son niveau intellectuel. Donc à la question aussi de comment pouvoir accéder, comment pouvoir aider donc des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, qui présentent aussi un certain degré de déficience intellectuelle. Donc l'idée du jeu a été on s'est inspiré d'une forme de prise en charge qui s'appelle l'ESDM. C'est le modèle de Denver. C'est une forme de thérapie comportementale et cognitive qui a été développée par Sally Rogers, mais qui a aussi qui s'inscrit aussi dans une perspective développementale, c'est-à-dire qu'on y va pas à pas, par étapes, avec une progression finalement dans le jeu, un peu à l'image de la progression dans le développement de l'enfant. Ce qui nous permet justement de pouvoir accéder à des enfants qui ont des niveaux de développement ou des retards plus ou moins importants finalement, et de nous ajuster un petit peu mieux à ces enfants-là que s'il y avait simplement un niveau auquel ils seraient finalement soumis.
Est-ce qu'au niveau des jeux vidéo que vous développez, vous avez des limites, des contraintes là aussi? Est-ce qu'à un moment vous dites non, on ne pourra pas aller faire plus que ce qu'on fait déjà, ou est-ce que ça paraît un petit peu infini, c'est-à-dire qu'on pourra s'adapter demain à d'autres types de déficiences ou à des déficiences encore plus importantes, là, au niveau du développement du jeu?
Alors écoutez, vous savez, en technologie, ça évolue tellement vite que dans 10 ans, on sera tous surpris de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire des petits moyens que l'on a aujourd'hui. Ce qu'il est possible de faire, parce qu'en santé, on est quand même dans un environnement très contrôlé, donc il faut toujours mesurer. Mesurer des bénéfices, mesurer de l'amélioration ou pas. Donc ce qui n'est pas mesurable, c'est vrai qu'on évite d'y aller parce que c'est vraiment abstrait. Alors on peut mesurer après peut-être si le confort de vie s'améliore et autres, mais quand même on va rester dans des choses que l'on mesure et qu'on va pouvoir comparer. Et les technologies, en fait, on enregistre tout. Donc, on a énormément de données, et l'analyse que l'on fait de toutes ces données que l'on restitue aux professionnels de santé, il permet d'avoir des choses tangibles et des choses mesurées de manière vraiment très... c'est pas du ressenti. Ce sont des données numériques d'amélioration, de scores et autres. Donc, on va rester quand même dans ce cadre-là. Ceci dit, on travaille, nous, sur d'autres projets où on va... on commence à travailler, je fais une petite digression, mais ce qu'on appelle sur l'imagerie motrice. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un mouvement, mais on imagine le faire. Rien que ça, déjà, on part sur une autre thématique. Ça peut, je pense, aussi avoir de grands débouchés sur la thématique de l'autisme. Mais c'est pour vous dire que les choses aujourd'hui, elles sont d'un point de vue technologique très avancé. Dans quelques années, on ne touchera plus un volant. Je ne sais pas comment on se déplacera. En tout cas, les choses vont beaucoup évoluer. En matière de santé, ce n'est pas grave. Les technologies suivent, s'adaptent, voire ou même déclenchent des nouveaux usages et des nouveaux comportements, à la fois chez les patients ou les professionnels de santé. Par contre, voilà, on est dans un environnement où il faut toujours aller mesurer les bénéfices patients, s'ils sont là ou pas, et puis les effets directs ou indirects que ces innovations génèrent.
Oui, ce que je voudrais simplement dire pour finalement compléter ma réponse par rapport à votre question, de savoir pourquoi les tablettes, pourquoi l'ordinateur. Alors, une chose importante, c'est que l'enfant avec autisme, comme l'enfant donc d'ailleurs ordinaire, mais plus l'enfant avec autisme, a besoin de prévisibilité. Pour être rassuré, on a besoin d'être dans un environnement qui soit prévisible, dans lequel il y a d'ailleurs une certaine forme de répétition. Nous, adultes, on a besoin d'agenda et que les choses soient bien organisées et que les choses se fassent en temps et en heure. Bon, eh bien, l'enfant avec autisme a vraiment besoin de ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette forme de prévisibilité, il n'est pas suffisamment rassuré et il a plus de mal à s'inscrire dans une tâche. Ce qui est formidable avec les tablettes, c'est que c'est hautement prévisible, c'est qu'elle vous offre aussi, par ailleurs, un message clair, c'est que le smiley qui doit apparaître en haut et à gauche, il va apparaître exactement au même endroit, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous voyez. Et cette prévisibilité est extrêmement rassurante pour lui, et je dirais qu'il faut en partir de cela, d'une certaine forme de répétition, pour l'amener finalement à une progression chemin faisant.
Ce qui est extrêmement prévisible aussi dans Plus près de la recherche, c'est qu'il y a un petit peu de musique. On vous retrouve tout de suite.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Au plus près de la recherche avec toujours le docteur Jean-Xavier, pédopsychiatre, et Pierre Foulon du groupe Genius. On parle de ce projet Igolia, ce projet qui est en cours, hein, mais un projet qui a démarré il y a déjà quelques temps. Et alors, il y a une des priorités de la recherche qui a été de favoriser l'accompagnement de l'enfant hors de l'environnement clinique, c'est-à-dire de pouvoir développer, et grâce à ce jeu numérique, des interactions qui se feront à domicile avec les parents et puis aussi avec les professionnels de santé, avec le thérapeute qui va suivre l'enfant, qui va jouer chez lui. Enfin voilà, donc moi je ne m'explique pas très bien, vous allez nous l'expliquer sûrement un peu mieux. Mais ça, c'était une des priorités et c'est une des innovations un petit peu de Igolia, ça ne se faisait peut-être pas avant.
Donc oui, effectivement, donc, je dirais la première innovation, c'est que l'enfant n'est pas confronté seul à une tablette, donc ne joue pas tout seul finalement à une tablette, puisque le présupposé donc, finalement de Golia, c'est que pour jouer, il faut qu'il interagisse avec son parent, et puis avec son thérapeute. Donc c'est un jeu qui sous-entend finalement une interaction et une coopération, donc un moment de partage. Donc ça, c'est quand même déjà une chose importante par rapport à ce qui existait.
Mais en plus, une interaction à distance en ce qui concerne le thérapeute, pas forcément toujours.
Alors,
mais
oui. Donc si on reprend un peu historiquement comment ce prototype, comme on pouvait dire effectivement, donc de Golia a été testé. Donc on a d'abord fait une première étude pour justement tester la faisabilité de ce jeu. Donc c'était sur 3 mois. Et à ce moment-là, donc l'enfant jouait avec ses parents à la maison. Donc il y avait une prise en charge qui était assez soutenue 2 à 3 fois par semaine à la maison. Et en parallèle, il y avait une fois par semaine un temps de reprise. Vous parliez du thérapeute, eh bien un temps de reprise à l'hôpital où on faisait un peu un bilan de la semaine, un bilan du niveau de l'enfant, de ce qu'il avait le plus apprécié, de comment finalement orienter. la semaine suivante en termes de niveau de difficulté, en termes de choix du jeu. Voilà. Donc il y avait ce couplage entre ce qui se passait à la maison, ce qui est quand même la finalité de ce jeu, on va en parler tout à l'heure, et puis un temps de reprise avec effectivement le thérapeute.
Pour nous aider peut-être à visualiser ce temps de jeu, est-ce qu'on peut avoir un exemple du type de jeu que l'enfant est en train de faire chez lui et de l'interaction avec les parents?
Donc oui, il faut imaginer que l'enfant a une tablette et les parents sont soit sur une tablette, soit sur leur ordinateur, et que les deux outils communiquent entre eux. Et donc, on a travaillé sur, il y a à peu près une dizaine de jeux différents dans le projet Igolia. Il y a des jeux sur l'imitation. Donc, les parents vont dessiner une forme, un dessin, et l'enfant doit reproduire en même temps. Et donc, on va mesurer de manière très précise, pas trop ce que font les parents. On peut le faire, mais c'est pas l'objet du projet. Mais par contre, de manière très précise, ce que va faire l'enfant, la qualité par rapport à la forme qui a été faite par les parents. Et cet échange-là, qui peut être aussi verbal entre eux. Et voilà, c'est vraiment ça qui a été privilégié.
Oui, donc juste par rapport à cette question de forme, justement, ce qui peut être intéressant, c'est que soit le parent fait une forme globale et l'enfant doit la reproduire, soit on peut y aller pas à pas avec l'enfant, finalement. Mm-hmm. C'est-à-dire trait par trait, pour que l'enfant puisse, encore une fois, pas à pas, être amené à dessiner la forme globale.
Donc là encore, il y a toute
une coopération entre parents-enfants pour dessiner, pour arriver à un dessin commun.
Et puis un niveau de jeu entre plus d'accompagnement et plus d'autonomisation.
Voilà, il y a différents niveaux de jeu qui sont appréciés en fonction des compétences, des connaissances de l'enfant, enfin de son niveau en tout cas. Et alors, la recherche des forme, le dessin, est-ce qu'on a d'autres exemples? Parce qu'effectivement, là, on visualise bien. Oui. Et aussi, vous parliez de plusieurs tablettes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à chaque fois plusieurs tablettes ou il n'y a pas une seule tablette? Je dis ça parce que c'est vrai que l'outil numérique, il est à la fois passionnant et puis à la fois, il y a souvent un frein qui peut être aussi financier ou autre, ou d'équipement. Donc
il faut en fait deux supports, puisqu'il faut un échange entre l'enfant et les parents et qu'il y a une communauté d'action. Donc, il y a une tablette classique, hein, et soit un ordinateur, soit une tablette. Mais vous savez, c'est des choses que l'on trouve maintenant. Alors déjà, ce sont des tablettes du commerce. Hein, je ne cite pas de marque, mais tout le monde les connaît. Et c'est des choses qu'on trouve à la maison, de manière assez répandue maintenant.
Assez courante, mais c'est vrai que la fracture numérique, elle est encore prégnante pour une partie de la population. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à penser, mais ça se démocratise et effectivement, on peut avoir de plus en plus accès à les tablettes. Oui. Alors, en dehors des formes et des dessins, un autre exemple peut-être
Donc, il y a un jeu de recettes de cuisine hein, où chacun fait sa propre recette et puis après, on compare le résultat, pas gustatif, mais on voit à quoi ça ressemble. Il y a un jeu où on doit ordonner une série d'images et donc, il y a des interactions sur l'ordonnancement des images. Il y en a qui sont dans la construction de cubes et de formes. Il y en a qui sont sur à partir d'instruments de musique et de son. Mmh. Et puis, du jeu de répétition de son. Et donc, voilà, il y en a toute une série comme ça. Bon,
c'est très complet.
Ouais. Jeu de répétition de mots aussi. C'est assez important sur la qualité des mots.
Et alors, tous ces jeux, ils ont été développés en lien, évidemment, avec l'équipe de santé. Comment vous avez fait pour choisir ces jeux, pour dire c'est tel type de jeu qu'il faudrait qu'on fasse? Vous avez demandé l'avis des personnes autistiques, l'avis des parents, vous avez travaillé avec l'ensemble des acteurs?
Alors, on n'a pas demandé, d'emblée, l'avis des parents sur le choix des jeux, parce qu'on n'en avait pas quand même tant que ça au départ. Hein, ça, il faut bien le dire. Je resituais Golia dans le projet Michelangelo, qui est le projet européen. Et dans ce projet européen, il y a par exemple les Italiens, donc à Pise, hein, qui avaient développé donc au départ deux jeux. Et nous, on a essayé donc finalement de compléter, de complexifier donc un petit peu tout ça. Je crois que ce que je peux dire, j'aurais du mal à vous répondre exactement sur pourquoi un jeu et pas l'autre. Ce que je dirais, c'est que ce sont des activités qui parfois reproduisent, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, ce sont des activités numériques qui vont reproduire certaines activités de base. Quand je dis de base, qui sont essentielles dans le développement de l'enfant et dans ce qu'on peut faire dans une unité de jour ou dans ce qu'on peut faire à la maison lorsqu'il s'agit, par exemple, d'attirer l'attention de l'enfant pour, par exemple, regarder un animal, pour reconnaître un son, pour reconnaître un instrument de musique, pour pouvoir dessiner. Vous voyez, ce sont des activités qui sont assez classiques, hein, et qu'il s'agissait, de, encore une fois, d'animer un petit peu plus et de transformer en jeu numérique.
Moi, il ne faut pas toujours demander l'avis des utilisateurs. C'est un peu étonnant ce que j'ai dit, mais j'ai beaucoup travaillé sur la maladie de Parkinson. On est arrivé à mettre des patients très atteints de la maladie de Parkinson sur un surf virtuel. Si on leur avait dit au début, écoutez, on a réfléchi, on va vous mettre sur un surf, ils nous auraient dit, mais non, non. Et pourtant, on arrive avec des résultats cliniques qui sont stupéfiants. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours demander. Et la recherche, en fait, nous, on débroussaille et on amène des nouvelles solutions qui sont parfois étonnantes. Mais il ne faut pas toujours demander l'avis des utilisateurs. En faisant ça, et ça vous étonne, oui, mais je vous assure que parce qu'il faut aller un peu plus loin. Et des fois, avec le numérique, on fait des choses qui sont un peu étonnantes. Ce qu'il faut voir, c'est que l'utilisation, après, alors on le fait quand même en liaison, je veux dire, permanente avec les professionnels de santé, et on arrive à des résultats cliniques qui, eux, sont bien présents. Et l'acceptabilité des utilisateurs, elle vient de manière très naturelle. Mais si on vient avec un concept étonnant, vous savez, on a fait un jeu de bataille navale de sous-marin pour des patients Alzheimer. Donc, si on ne fait pas un environnement ludique fort qui capte l'attention, je me souviens encore avec du professeur Philippe Robert, quand je lui disais, ben en fait, pour atteindre tous les objectifs qu'on a listés, il faudrait faire un sous-marin. Il me dit, mais tu es sûr? Je dis, ben oui. Et on l'a fait et ça marche très très bien.
Alors, ne pas écouter l'avis des premiers concernés.
Effectivement, bon. Non, mais je pense que c'est très important. Et à la fois, on a rapidement testé quand même notre jeu, dès effectivement les différentes activités numérisées, on pourrait dire. On a testé les performances de ce jeu avec les familles. Hein, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette étude de faisabilité. C'est-à-dire que sur 3 mois, il y a eu donc, ce couplage entre l'utilisation du jeu à la maison, de manière donc, pluri-hebdomadaire, et un temps à l'hôpital donc de reprise avec les thérapeutes. C'est ce que je vous disais juste avant. Et donc cette étude que nous avons menée, hein, qui est une étude assez modeste, hein, de faisabilité sur 10 de patients, a montré qu'il y avait une amélioration des performances des enfants sur les jeux, qu'il y avait un investissement de l'enfant plus important, donc, qui augmentait je dirais de manière régulière donc, au fur et à mesure de l'utilisation du jeu, que l'enfant avait de meilleures capacités d'attention, une flexibilité, c'est-à-dire qu'il pouvait, par exemple, revenir en arrière, qu'il pouvait remettre en question donc, sa première réponse, enfin bon. Et puis, une amélioration aussi de l'estime de soi. Et enfin, puisqu'on parle effectivement des parents, qui sont au cœur de tout cela, bien évidemment, eh bien, on a eu des témoignages assez, je dirais, assez émouvants. Alors, pas une centaine, hein, puisqu'on n'avait que 10 familles, mais enfin de parents qui disaient que pour une fois, ils pouvaient partager une activité avec leur enfant.
Ce qui est d'ailleurs assez remarquable dans le cadre qui nous concerne ici de personnes qui ont des handicaps, parce qu'à l'inverse, dans le milieu ordinaire, il y a une problématique aujourd'hui qui est qu'on trouve que l'écran, que les outils numériques vont parfois couper les parents des enfants et qu'au contraire vont être problématiques et quelqu'un comme Serge Tisseron, pour pas le nommer, a lancé l'alerte des fois là-dessus en disant les parents ne regardent plus leurs enfants, enfin voilà, il y a une espèce de coupure qui est due au numérique. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que finalement la tablette, l'outil, le jeu numérique en tout cas, va permettre un rapprochement et un échange.
Mais oui, parce que la tablette, encore une fois, favorise la communication. Mais ce n'est même pas favorise, c'est que la communication est inhérente finalement à l'interaction. Encore une fois, l'enfant ne peut pas avancer dans le jeu s'il n'est pas dans une coopération régulière avec l'adulte. Alors il va aussi développer d'ailleurs des capacités de motricité fine, par exemple quand il va dessiner, donc des capacités sur le plan visio-spatial, il va devoir répondre à des choses, donc sur le plan auditif, donc sur le plan de l'attention auditive, il va s'améliorer aussi, mais la communication, l'interaction, la coopération sont à la base de ce jeu.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et toujours, donc, avec le docteur Jean-Xavier et puis Pierre Foulon, on parle de ce projet Igolia, ce projet qui a démarré il y a déjà quelques temps. Il y a eu une phase de test, vous nous en parliez à l'instant. Concrètement, aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, hors micro, vous me disiez, on a 3 familles avec lesquelles on teste les nouveaux jeux. Voilà, c'est quoi cette phase de test ? Elle dure jusqu'à quand ? On en est où ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement ? Puisque les gens qui nous écoutent vont dire, bon, alors moi, concrètement, est-ce que ça marche déjà ? Quand est-ce qu'on saura que ça marche ? Et quand est-ce qu'on pourra finalement en profiter ?
Bon, ce que je pourrais vous répondre déjà, c'est que ce qui est intéressant donc, avec ce jeu, c'est que on l'a utilisé d'abord dans la première version avec des enfants qui ne présentaient pas de déficience intellectuelle d'ailleurs. Et ce jeu a fonctionné, mais simplement on s'est rendu compte que pour certains enfants, ils commençaient à un moment donné à plafonner puisque finalement ils sont allés au bout du jeu. Bon, et puis on s'est rendu compte pour l'avoir réutilisé aussi donc cliniquement sur mon unité de jour et dans le service, que des enfants qui présentent un trouble autistique avec une déficience intellectuelle, de différents degrés d'ailleurs, ils pouvaient vraiment s'engager dans ce jeu et trouver des bénéfices. Bon. Donc, nous, notre idée, après effectivement cette étude de faisabilité qui a été faite sur une dizaine d'enfants, notre idée était de pouvoir développer ça, de pouvoir démocratiser finalement ce jeu et de l'ouvrir à une population d'enfants beaucoup plus importante. D'où justement effectivement la collaboration que nous pouvons avoir avec Pierre Foulon.
Alors justement, aujourd'hui, c'est en test. Vous nous dites aujourd'hui, on teste, donc on va voir si ça marche.
Alors,
comment on va, à quel moment on va dire, en fait, oui, ça marche, c'est très bien, c'est comme ça, c'est ça qu'il fallait faire, et on ouvre.
Donc,
Pierre.
On va, en fait, du mois d'avril au mois de juillet, donc c'est en utilisation auprès des familles. Ensuite, on va recueillir, là, on écoute énormément ce que nous disent les utilisateurs et on va peaufiner sur pas mal d'aspects pour arriver à un produit qu'on va considérer comme fini. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va le mettre en accès libre et gratuit, conformément d'ailleurs
à l'accord
que l'on a avec la FIRA, sur une plateforme qui s'appelle curapi.com.
curapy.com, on mettra les liens sur le site.
Donc ça, c'est à partir du mois de septembre, en version française. Et on va faire une version anglaise qui sera accessible toujours sur Curapy à partir du mois de décembre.
Et alors, Jean-Xavier, vous nous disiez à l'instant, on a testé pour différents types de déficiences. Ça veut dire que là, vous testez quand même précisément avec des familles et avec des enfants qui sont atteints de troubles autistiques. Mais ça va intéresser beaucoup plus largement un public, notamment d'enfants, d'ados avec des déficiences intellectuelles. Ça, vous allez communiquer là-dessus auprès d'un plus large public ?
Non, ce que je voulais dire, c'est que les enfants qui présentent un trouble du spectre autistique ont des niveaux finalement déficiences intellectuelles qui sont différents et certains d'entre eux présentent des retards qui sont plus ou moins importants. Et on s'est rendu compte que ce jeu pouvait être aussi, bien évidemment, très utile pour eux, puisqu'il comporte ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment une progression entre donc des niveaux finalement de difficultés qui sont assez nombreux. Donc finalement, il peut progresser dans le jeu, l'enfant, et donc on peut s'ajuster aussi à son niveau initial pour organiser sa progression.
Alors, deux petites questions pour moi, pour être sûr que moi j'ai bien compris, que d'autres éventuellement aient bien compris. Quand vous dites « ils ont progressé », on est dans un cadre de recherche scientifique, donc on est sûr que ça marche, qu'il y a eu des progrès pour ces personnes-là. Et la deuxième question, effectivement, c'est que même si on ne teste pas pour d'autres types de déficiences intellectuelles qui ne sont pas dans un cadre autistique, est-ce qu'on ne peut pas supputer pour le moins que ça pourra servir aussi à d'autres types de...
On peut imaginer, étant donné que c'est un jeu d'apprentissage, que... effectivement, c'est un jeu qui permet de développer certaines compétences. On parlait d'imitation d'attention conjointe, mais dans le jeu, il y a, comme je vous le disais, la motricité fine, il y a le langage, donc il y a plein de choses. Donc on peut effectivement envisager ça. Pour la question que vous me posiez juste avant, de savoir démontré le progrès, quand je parlais d'un progrès, c'est un progrès dans le jeu. Pour l'heure, on a mené donc une étude sur une quinzaine d'enfants en comparant un groupe qui avait ses prises en charge habituelles versus un groupe qui avait les prises en charge habituelles plus le jeu, plus l'expérience du jeu. On n'a pas démontré une efficacité en termes de développement, je dirais, de l'enfant ou de diminution de ces troubles autistiques. Donc, pour l'heure, je parle de progression dans le jeu.
Mais il y a quand même une progression aussi au niveau de la communication, de l'interaction
mais
avec
il y a,
les parents et le thérapeute.
Voilà,
déjà.
Exactement. C'est justement là-dessus que je voudrais effectivement insister. Il y a une progression dans l'investissement effectivement, du jeu, dans l'interaction avec les parents. Et donc, puisqu'on parle justement de cette dernière version, donc de cette version numérique, donc effectivement qui vient de sortir et qui est testée sur un large public, nous sur l'unité de jour, effectivement, donc on la teste en l'utilisant donc avec nos enfants et puis en confiant aussi des tablettes à trois familles actuellement pour qu'elles puissent aussi tester le jeu et on va les rencontrer parce qu'elles ont reçu le jeu cette semaine. Plus précisément, elles vont recevoir le jeu cette semaine, mais on va les revoir régulièrement pour savoir comment ils ont vécu le jeu, comment ils l'ont utilisé, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles, puisque vraiment l'idée, c'est qu'elles puissent effectivement les utiliser à la maison tranquillement, sans qu'il y ait forcément une personne, une aide pour les accompagner et pour les aider. Ce que je voudrais dire quand même juste en aparté, on discutait tout à l'heure donc avec Pierre Foulon sur le lien avec le thérapeute. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant puisse être avec ses parents et jouer en interaction, puisse utiliser donc Igolia donc à la maison, mais que le thérapeute qui le prend en charge puisse aussi avoir des informations sur l'évolution de l'enfant, puisse être aussi d'une certaine façon connecté avec cette tablette pour qu'il puisse réutiliser, qu'il puisse rediscuter aussi avec les parents de la progression de l'enfant, donc des activités de l'enfant à la maison.
Mais ça c'est déjà le cas, on l'a cité tout à l'heure, c'est pour moi une innovation, effectivement, ce lien à distance avec le thérapeute qui va pouvoir... ça, c'est vraiment déjà très positif, concluant comme essai, des deux côtés.
On est encore au début, encore une fois, du test de cette dernière version. Je pense qu'effectivement, on va y arriver.
Donc les résultats septembre, on en saura plus en septembre ou...
On en saura plus, effectivement, lorsqu'on aura suffisamment effectivement, de familles, donc suffisamment d'enfants qui pourront tester cette nouvelle version. Il m'est difficile aujourd'hui de vous donner des dates précises, mais je crois qu'avec ce que tu disais par rapport à cette ouverture en ligne de cette...
On va recueillir énormément d'informations une fois qu'on aura lancé le produit. Et puis, vous savez, on est en santé, donc c'est un processus qui est lent. On va toujours vérifier et démontrer. Et tant qu'on n'a pas, on peut avoir une idée, etc. Mais tant qu'on n'a pas démontré, on ne le dit pas. On est en train de préparer une version avec une étude beaucoup plus large. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on veut que ces résultats-là soient diffusés le plus largement possible, y compris par l'ensemble des professionnels de France de santé, mais en France, en Europe ou partout ailleurs, on doit encore passer par une étude supplémentaire, beaucoup plus large, randomisée, de groupe. Et donc, c'est l'étape suivante, une fois qu'on aura terminé ce prototype qui, lui, est complètement exploitable.
Et ce sera en accès libre et gratuit, toujours pour les particuliers ou pas ?
Alors, c'est l'engagement que l'on a pris avec la FIRA de mettre les résultats de nos travaux en accès libre et gratuit pour les familles, les professionnels de santé, sur la plateforme curapi.com. Oui.
Et aujourd'hui, sur curapi.com, juste pour élargir un peu, pas à Igolia, ce qui nous concerne, mais à d'autres jeux, quel est votre best-seller, entre guillemets ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? C'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est l'autisme, c'est le...
Donc, alors, une fois qu'on a fait tout ça, il faut passer par une... Avant de pouvoir commercialiser un jeu vidéo thérapeutique, là je parle de commercialisation, donc il faut devenir dispositif médical, etc. Donc on a un jeu qui s'appelle X-Torp, qui s'adresse aux patients qui ont la maladie d'Alzheimer, en début de maladie. C'est un jeu qui est extrêmement utilisé dans toute la francophonie. Curapi, le principe d'utilisation du Curapi, c'est que les jeux sont en accès libre et gratuit auprès des professionnels de santé, quels qu'ils soient, une fois qu'ils nous démontrent que ce sont des professionnels de santé. Et il y a à peu près 1000 professionnels de santé qui l'utilisent et 1500 patients qui l'utilisent également.
C'est déjà en soi une preuve que ça ne marche pas trop mal. Un dernier mot sur Igolia. Igolia, ce sera présenté au Salon international de l'autisme, je crois. Vous me disiez ça, je n'ai pas la date, mais...
Alors, effectivement, le CRAIF nous a sollicité... Je n'ai pas la réponse encore.
On mettra la date sur...
Oui.
sur le site. Et le CRAIF, puisque vous venez de le citer, c'est le centre ressources dédié à l'autisme en Île-de-France, qui est partenaire du projet Igolia, notamment pour la partie communication et diffusion des jeux thérapeutiques. Voilà, ben merci à tous les deux. Pierre Foulon pour le groupe Genius, le docteur Jean-Xavier pour le CHU Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Igolia. Je ne termine pas exactement l'émission avec vous, puisque je voudrais dire à nos auditeurs, leur rappeler pour certains s'ils le savent déjà, que la prochaine rencontre handicap, recherche et citoyenneté organisée par la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, se déroulera le 15 mars 2018 à 17h30 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas hésiter à vous inscrire si vous souhaitez y aller. C'est gratuit, mais il faut vous inscrire en ligne. Alors le site de la FIRA, fira.org pour toutes les informations. Et ça vous renverra vers un lien d'inscription. Et comme chaque année, ce sera l'occasion de découvrir et de redécouvrir des projets de recherche qui ont été financés par la FIRA et dont on vous a parlé sur cette antenne. Et encore un mot, d'ailleurs, cette année, vous pourrez, si vous assistez à la rencontre annuelle, en savoir plus sur le projet GéoAccess, un projet de recherche qui concerne l'accessibilité des données géographiques pour les personnes malvoyantes, grâce là encore aux nouvelles technologies. Hein, on reste dans la thématique. Et puis, nous parlerons aussi d'un programme de recherche qui concerne la prise de parole en santé mentale et plus précisément sur les conditions d'émergence et de reconnaissance de la parole des personnes dites handicapées psychiques. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir. Vous découvrirez aussi le nouvel appel à projet de la FIRA et voilà, toutes les infos sur fira.org ou sur le site de Vivre FM. Merci et bon week-end à l'écoute de Vivre FM. Vivre.